Accent d'Europe, Catherine Roland.
Des lapons qui se battent contre les puissantes compagnies minières, Pompéi victime des dégradations et de la cupidité, des jeunes Européens en exil et un village qui aime les librairies. Bienvenue dans l'émission qui scrute la vie des Européens. C'est l'un des plus grands sites archéologiques au monde et pourtant de nouveaux écroulements à Pompéi suscitent l'indignation générale. Ces dégradations régulières depuis 3-4 ans sont dues à la cupidité, au mauvais entretien et à la mauvaise gestion des fonds pour la restauration. Progressivement mise au jour et rendue accessible au public depuis le XVIIIe siècle, aujourd'hui les domus s'effondrent, un fragment de fresque a même disparu faute de surveillance. L'Union européenne, qui cofinance un grand projet de restauration, a récemment exhorté l'Italie à prendre soin de Pompéi, lieu emblématique pour l'Europe mais aussi pour le monde. Pompéi, cité mystérieuse et fascinante, est-elle condamnée à disparaître de nouveau? C'est le reportage de Mathilde Auvillain.
Cet espace-là, qui s'est développé, s'est réalisé en époque romaine.
Tout est impressionnant. La grandeur de la ville est impressionnante. On pensait que ce serait beaucoup plus petit. Et finalement, c'est immense, quoi. C'est immense.
Comme Martine, touriste française, chaque année, 2,5 millions de visiteurs du monde entier déambulent émerveillés dans les rues de la Pompéi antique, cité romaine, ensevelie par une éruption du Vésuve, puis exhumée au XVIIIe siècle. Depuis, le site nécessite un entretien quotidien et méticuleux. Or, ces dernières années, Pompéi a perdu de sa superbe, en partie parce que des techniques traditionnelles de conservation ont été progressivement abandonnées. C'est ce que déplore Antonio Pepe, qui y travaille depuis plus de 25 ans.
Les tessere di mosaico. Avant, les mosaïques étaient recouvertes de sable volcanique en hiver pour les protéger. Cette protection était ensuite enlevée au printemps et c'est comme cela qu'on les conservait. Idem pour les fresques. À l'automne, on passait un mélange de cire et d'essence. Une technique perpétuée par les précédents surintendants du site et abandonnée par les professeurs d'université qui les ont remplacées. Cela servait à protéger les fresques des intempéries et de la pluie.
En ce début de 21e siècle, la survie du site est menacée. Quand il pleut un peu trop, des pans de murs et d'histoire s'effondrent et à chaque intempérie, le surintendant Massimo Ossana fait face à une avalanche de critiques.
C'est un peu facile de crier au loup, de dire que Pompéi s'écroule. On est tous bien conscients de la difficulté de conserver ce site. Un site compliqué, 44 hectares de ruines. Il y a énormément de travail de fait, mais qui ne se voit pas. En ce moment même, des travaux de manutention urgents sont en cours, là où il y a eu des éboulements. Et en parallèle, il y a le grand projet Pompéi qui vise à sécuriser tout le site archéologique.
Le grand projet Pompéi a été lancé en 2012, 105 millions d'euros, dont 42 financés par l'Union européenne pour des travaux de restauration. Ce grand projet prévoit la restauration complète de 5 maisons, les domus, et la mise en sécurité des édifices. En 2 ans, en tout, 55 projets ont été approuvés. 14 seulement ont fait l'objet d'appels d'offres, 5 chantiers ont démarré et une seule maison a été restaurée. Mais pour le syndicaliste Antonio Pepe, pour sauver Pompéi, l'urgence est ailleurs.
À Pompéi, l'argent n'a jamais manqué. Nous en avons toujours eu. Il n'a jamais été dépensé. La seule chose à faire, c'est d'engager du personnel. Avec des embauches, on pourrait garantir l'entretien du site. Et ainsi, on pourra confier aux générations futures Pompéi en l'état. C'est ce qui a été fait au cours des 200 dernières années par ceux qui l'ont découverte.
La billetterie du site rapporte environ 20 millions d'euros par an, une somme considérable qui s'ajoute aux subventions européennes et autres financements publics d'urgence. Une mine d'or qui, pour certains, pourrait attiser les appétits de la mafia, hypothèse cependant écartée par Antonio Pepe.
Les seules infiltrations que j'ai vues ici, ce sont les infiltrations d'eau. Moi, je vis ici depuis toujours. Je n'ai jamais vu un mafieux dans les ruines de Pompéi.
Des seuls pillards de Pompéi, il ne reste que des squelettes retrouvés dans une domus, des voleurs qui, selon les archéologues, auraient été piégés par l'éruption du Vésuve il y a plus de 1900 ans. Mais un trésor gît toujours sous terre. Un tiers de la ville de Pompéi n'aurait pas encore été découvert. Ce chantier, le surintendant Massimo Sana entend cependant le léguer à ses successeurs.
Je suis contre la poursuite des fouilles. Elles ont commencé en 1748. Je crois qu'on peut pour l'instant en rester là. Mais surtout parce qu'il faut laisser aux générations futures le soin de poursuivre les fouilles avec des technologies dont nous ne disposons pas encore dans les zones inexplorées.
Les secrets bien gardés, les mystères inexpliqués, c'est aussi en grande partie ce qui fait le charme de Pompéi.
Payer ses frais d'université en bitcoins, c'est désormais possible dans deux universités européennes. L'une se trouve à Chypre, l'autre dans le nord de l'Angleterre. C'est l'université de Cambria. Marie Billon nous en dit plus.
L'université de Cambria a décidé de passer de la théorie à la pratique. Alors que deux des cours qu'elle dispense traitent des monnaies parallèles, elle a décidé d'offrir à ses étudiants le droit de payer leur éducation avec une monnaie en vogue, le bitcoin. Le bitcoin, c'est une monnaie virtuelle dont la valeur fluctue en fonction de son succès. Et après avoir été très fort, le bitcoin est en train de perdre de la valeur, notamment à cause de plusieurs scandales et de fraudes. Ça n'a pas arrêté l'université de Cambria, même si elle se veut prudente. D'abord, seuls deux cursus peuvent être payés en bitcoin, des cours donc sur les monnaies parallèles, dispensés pour l'un sur un campus londonien, pour l'autre au nord de l'Angleterre, dans la région des Lacs. Ensuite, l'université a clairement déconseillé aux étudiants de changer leur livre sterling en bitcoin juste pour payer leur cursus. Il est conseillé de n'utiliser cette monnaie que si vous avez déjà un portefeuille ou des bons en bitcoin à cause de la volatilité de cette monnaie, dit l'université. Parce que si les deux cursus coûtent 1000 et 3000 livres, leur prix en bitcoin dépend du jour où se fait le paiement, le cours de la monnaie variant quotidiennement. L'université de Cambria a décidé de faire un essai avec ces deux cursus, tout en envisageant d'étendre cette possibilité de paiement à d'autres cours si l'exercice se révèle fructueux.
On le sait peu, mais la Suède est l'une des très grandes terres d'accueil des investissements miniers devant la Finlande. Une activité minière très importante dans l'extrême nord du pays, sur la terre des Lapons ou des Samis, le dernier peuple autochtone du continent. Et cette relance est très controversée. À Kallak, près de Jokkmokk, sur cette presqu'île entourée de lacs, se joue l'un des grands bras de fer de notre époque, capitalisme contre culture et tradition. Les Samis luttent ainsi contre l'implantation d'une mine britannique, une mine qui met en danger la transhumance de leur reine, donc de leur mode de vie. Reportage sur place de Corentin Valenceau et de Victor Rothberg.
C'est rare à Jokkmokk. Les Samis manifestent en ville. Militants écologistes, universitaires et acteurs du tourisme ont protesté à leur côté contre l'implantation d'une mine à Kallak. La compagnie britannique Beowulf a déjà commencé les forages d'essai de 2000 tonnes de fer. Karine Koliok est éleveuse de rennes, son troupeau est en danger si le projet se réalise.
Il y a désormais un vrai mécontentement chez les Samis. Nous sommes restés silencieux beaucoup trop longtemps. Notre révolte ne concerne pas seulement les mines. Nous nous battons pour que les Samis soient davantage reconnus, mais aussi pour qu'on arrête de piller continuellement les ressources naturelles dans le Nord. Plusieurs régions de Suède sont touchées, mais c'est désormais à Kallak que le conflit se cristallise.
Depuis 1993, la Suède a une législation très favorable aux entreprises minières. Dernièrement, l'inspection des mines a accordé environ 200 permis d'exploration par an. Les refus sont rares. Tord Lundberg-Turda habite à deux pas de la future mine. Pour lui, le boom minier est lié à l'histoire. Le Nord a toujours été vu comme le garde-manger économique de la Suède.
Toute résistance est encore difficile aujourd'hui parce qu'il nous faut sortir du dogme colonialiste. C'est ce mode de pensée qui nous forme depuis plusieurs siècles. En Suède, nous apprenons à l'école, à l'université et dans la littérature que les pays colonisateurs, ce sont la France, l'Espagne, le Portugal, mais jamais la Suède. C'est pourquoi, historiquement, les locaux et les éleveurs de Rensam ont toujours été très conciliants avec les politiciens. On leur donne volontiers notre terre, c'est enraciné, c'est naturel.
Selon la loi suédoise, les Samis ne peuvent pas revendiquer la terre qu'ils utilisent depuis près de 9000 ans pour élever leurs rennes. Karine Kouliok.
Nous avons créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Non à la mine. Ce groupe rassemble des milliers de personnes. Nous avons aussi un avocat. Il a fait appel quand l'entreprise minière a reçu l'autorisation de s'implanter à Kallak. Au niveau juridique, on tente systématiquement de faire des recours. Mais nous organisons également des manifestations à Jokkmokk et à Stockholm. Nous ne sommes peut-être pas très nombreux, mais nous avons la volonté. Chaque mardi, un groupe de quelques dizaines de personnes manifeste à la porte de l'Assemblée nationale en soutien aux Sami.
Le permis d'exploitation n'est pas encore acté pour la mine de Kallak, mais sur le site, au milieu de nulle part, deux ouvriers s'activent déjà avec une foreuse. Les mouvements de protestation ont d'ailleurs incité le Parlement sami à prendre position, même s'il n'a qu'un avis consultatif, selon les propres dires de son président, Stefan Mikkelsen.
C'est très difficile pour nous de changer la législation. En fait, le droit sami est complètement invisible dans la justice suédoise, parce que c'est un droit oral fondé sur des coutumes, donc sans poids juridique. Ce que nous pouvons faire, c'est juste exprimer notre point de vue au public et prouver nos droits.
Le pouvoir de l'État suédois est donc le plus fort. Est-ce à dire que l'État suédois favorise les entreprises en écrasant les Samis ? Stefan Andersson est maire de Jokkmokk.
Oui, je suppose que c'est juste de dire ça, mais il faut garder à l'esprit l'importance de l'énergie hydraulique, le bois et les mines. Depuis très longtemps, c'est la base de notre prospérité, surtout dans cette région. C'est simpliste de dire qu'on écrase les Samis.
Pour amadouer la population locale, la compagnie minière Beowulf annonce vouloir créer 400 emplois pour 14 ans d'exploitation. La municipalité espère ainsi dynamiser une région qui a vu sa population diminuer de moitié ces 50 dernières années. Mais si la mine de Kallak se construit, Karine n'aura pas d'autre choix que de vendre ses rennes.
Il n'y aura pas d'alternative. C'est déjà très difficile actuellement et les terrains autour sont occupés par d'autres familles. Il n'y a nulle part où nous puissions aller.
Pour Beowulf, Kallak, ce n'est qu'un début. Si la mine est acceptée, ce sera un signal clair lancé à la communauté minière internationale, celui d'une Suède très conciliante, au détriment du peuple sami et de leur gagne-pain, l'élevage du renne.
Imaginez un village où deux commerces sur trois sont des librairies, un rêve pour les amateurs de livres et de vieux papiers. Ce village, c'est Heyonwy, au Pays de Galles, une mine d'or pour bibliophiles qui s'y rendent par centaines de milliers chaque année. Sébastien Duval.
Dans l'ancien cinéma, les ruines du château, les cafés, les jardins publics, on trouve des livres un peu partout à Heyonwy. Perdu dans la campagne galloise, au bord du parc national des Brecon Beacons, le village était moribond lorsque Richard Booth a racheté l'ancienne caserne des pompiers au début des années 60. Cet excentrique local en a fait une librairie, bientôt trop petite pour entreposer ses nombreux ouvrages. Il a alors ouvert d'autres points de vente aux quatre coins du village et les curieux ont commencé à affluer. Son succès a poussé d'autres bouquinistes à venir le rejoindre. Et en Oie compte aujourd'hui une bonne trentaine de librairies pour 1500 habitants. La plupart proposent des livres d'occasion. Ils sont parfois laissés à l'air libre sur des étagères bancales et vendus pour quelques pennies seulement. Richard Booth a assuré lui-même la réputation du village en déclarant son indépendance le 1er avril 1977. Richard Cœur de Livre, comme il se fait appeler, s'est proclamé roi avant de nommer son cheval premier ministre. Depuis 1988, Heian Hui, devenu capitale mondiale du livre d'occasion, accueille également chaque année au mois de mai l'un des plus grands festivals de littérature en Europe. Pendant 10 jours, écrivains, poètes, comédiens, hommes politiques et musiciens se retrouvent dans un cadre verdoyant. Un rendez-vous littéraire décrit un jour comme le Woodstock de l'esprit par l'ancien président américain Bill Clinton. Le concept gallois a été copié par plusieurs cités du livre à travers le monde. C'est le cas de Becherel en Bretagne et de Montaulieu dans l'Aude. Aux dernières nouvelles, les deux villages français n'ont pas encore demandé leur indépendance.
Des notes dans les oreilles pour terminer l'émission avec le choix pop de Vincent Théval.
Michael Head, véritable légende de la pop anglaise, a publié l'automne dernier son premier disque en 7 ans, Artorious Revisited, émouvant prolongement d'une discographie qui a ses racines au début des années 80, quand Michael Head fonde les Pale Fontaines, auteur en 84 et 85 de 2 albums magnifiques dans le registre d'une pop cuivrée. La carrière de cet auteur-compositeur brillant n'est hélas pas à la hauteur des albums qu'il publie avec son groupe suivant, Shack, ou sous son propre nom. Et en 2013, Michael Head doit sa renaissance à l'enthousiasme de ses fans du monde entier qui ont financé la fabrication de ce nouveau mini-album via une souscription, et le disque est à la hauteur des attentes. Heart-cut and bones for you will be my dear. Artorious revisited, my dear. I'm on the run and that's the news for me. Life is full of laughter and sorrow. We don't need no PD tomorrow. Santo Domingo in my ears. Pick up the telescope and disappear. I'm on the run and it's the ocean for me. Life is full of laughter and sorrow. We don't need no Mexico tomorrow.
C'est la fin d'Accent d'Europe. À la réalisation, Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur RFI.fr ou sur Facebook. Restez à l'écoute dans une poignée de secondes, les infos.